Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939. Elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes, enfermées pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdistan. Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
Il y a déjà maintenant un an que j'ai rencontré, dans cette petite cellule qui me devient familière, une femme dont l'absurdité de la situation est restée dans ma mémoire. Je me rappelle de voir entrer une femme d'une quarantaine d'années, amitouflée sous plusieurs couches de vêtements pour se protéger du froid qui règne dans le bâtiment, femme à l'allure déterminée, malgré une expression de lassitude sur son visage. Il fut en effet assez froid dans cette petite pièce exiguë, car le chauffage en cette fin d'année n'a pas été encore mis en route. Mais elle ne s'en plaint pas. Son histoire est celle d'une femme courageuse, ayant voulu se créer, comme tant d'autres, un avenir. Elle est entrée clandestinement en France il y a 10 ans et a toujours subvenu à ses besoins en faisant plusieurs petits boulots. En 2015, elle a essayé de régulariser sa situation en faisant une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Malgré des preuves d'intégration, des fiches de paye montrant qu'elle a travaillé d'une manière continue pendant 18 ans, une promesse d'embauche avec un CDI, ainsi qu'un avis favorable de la directe sur son employabilité, sa demande a été refusée par la préfecture de la Haute-Garonne. Il faut que je vous précise ici le fait que, bien que les personnes séjournant d'une manière irrégulière en France n'aient pas le droit de travailler, eh bien il est nécessaire de prouver que l'on a travaillé, pour avoir une petite chance de voir sa situation être régularisée. Nous ne sommes pas à une absurdité près. Ce refus de régularisation a été accompagné d'une mesure d'éloignement forcé. C'est la sémantique utilisée par l'administration pour dire « mesure d'expulsion » et l'occasion d'un premier séjour au camp de Cornebarieux. N'ayant aucun projet de vie dans son pays d'origine, des problèmes avec sa famille et ses attaches en France, elle a un compagnon français, me confie-t-elle à la voix basse. Elle est revenue clandestinement en France en 2017, où elle vivait depuis avec un travail dans une entreprise de nettoyage de chantier. Entreprise disposée à lui faire une promesse d'embauche. C'est à l'issue d'un contrôle dans son lieu de travail que les services de la préfecture lui ont notifié une nouvelle mesure d'expulsion et placée pour la deuxième fois au CRA de Cornebarieux. Et pour être complet, une mesure d'interdiction de revenir en France pour une durée de 2 ans. Mesure qui a été annulée par le tribunal administratif, celle-ci ayant été jugée abusive. C'est à ce stade de son odyssée que je la rencontre. Fort de son expérience de 2 séjours au CRA de Cornebarieux, elle note que les conditions de vie se sont dégradées depuis son premier séjour en 2016. Pour elle, c'est la prison et elle ne comprend pas pourquoi elle est enfermée, alors qu'elle n'a rien commis de grave, qu'elle a toujours gagné sa vie honnêtement en travaillant, même si c'était d'une manière irrégulière. Pourquoi me traite-t-on comme une criminelle? Le retour dans son pays d'origine n'est pour elle absolument pas envisageable. Et si la procédure d'expulsion est exécutée, elle fera tout pour revenir en France où elle a toutes ses attaches. Et pour cela, elle affrontera les dangers d'une traversée de la Méditerranée sur une esquive surchargée. Durant cet entretien, j'ai vu toute la détermination de cette femme et cette colère contenue, suscitée par un sentiment de profonde injustice.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMADE, lacimade.org/publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimade.org. Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en Absurdistan, pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générale sur ce système et sur la vie au CRA de Corne-Barrieux. À bientôt.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Voici un dernier devoir de vacances. On me dit qu'un certain Jean Racine inventa les salons littéraires. Moi, je croyais que ça avait démarré bien avant. Mais enfin. On écoutait les vers des jeunes poètes et on donnait son avis, basé impartialement sur la beauté de la langue, la richesse du vocabulaire, l'habileté de la rime, la hauteur de l'inspiration, la belle venue des images. Une dame, et de qualité, c'est presque aussi sensible qu'un roi du modèle courant. Si les dames esquissaient une petite moue, ça voulait dire qu'un roi aurait fait une grosse grimace, et que le roi soleil aurait dégueulé partout. Vous voyez, il suffisait d'extrapoler, comme disait Bossuet, en secouant son goupillon sur les cercueils. Les effets de cette heureuse influence ne tardèrent pas à se faire sentir. On examina tous les mots un par un, et l'on rangea à droite ceux qui étaient dignes de figurer dans un ouvrage poétique, les mots nobles, et à gauche ceux qui pouvaient à la rigueur servir pour acheter des choux-fleurs, ou pour aider à faire venir le suprême grand spasme de la volupté amoureuse. Les mots triviaux. Pour vous donner une idée, la mer, c'est trivial. Si vous mettez ça dans un poème, crac, place de grève. Dites plutôt l'onde amère, les flots azurés, les prés de Neptune, vous susciterez un murmure flatteur. Ne dites pas « le soleil tape comme une vache ». Dites « l'astre du jour nous perce de mille dards ». Ne dites pas « je t'aime tant que j'en fais dans mon froc ». Dites « vos appâts éveillent en moi de doux transports ». Naturellement, si votre nature vous y porte vraiment, vous pouvez faire dans le trivial. Dans ce cas, vous êtes un comique. C'est un autre genre, il y a un public. Ça a ses mérites aussi. Un bon rire vaut un beefsteak, paraît-il. Ça vise plus bas, c'est tout. Mais si vous voulez être honoré et laisser un nom à vos enfants, faites plutôt pleurer. Et si en plus vous êtes chiant, le plus bel avenir vous attend.
T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier. Au fond, tu n'as qu'un seul regret, tu fais pas ce que t'aurais voulu faire.
Il y a la rime, il y a la noblesse du langage, et il y a la longueur des vers. Les vers, il y en a des longs, il y en a des courts. Plus ils sont longs, plus ils coûtent cher, c'est normal. Les grands seigneurs voulaient ce qui se faisait de mieux. Au commencement, on ne savait faire que des vers très courts, forcément. On commence par faire petit, et puis, peu à peu, on se risque. Les plus anciens poèmes connus, les célèbres « Amour » de A et de O, étaient entièrement composés de 378 500 vers de un pied, rimant tous deux à deux avec une perfection qui force le respect. Et, tour de force inouï, tous holorimes, c'est-à-dire rimant d'un bout à l'autre. On osa bientôt des vers de 2, 3, 4, 8, 10 pieds. Mais à peine un poète avait-il ajouté un pied à ses vers, aussitôt un autre en ajoutait un de plus. On vit s'épanouir de majestueux vers de 30 pieds, de 100 pieds, de 10 000 pieds. La rime était là-bas tout au bout, on l'attendait. Haletant. Et quand enfin elle tombait, recta, c'était un immense « Ah !» de bonheur. Jusqu'au jour où un poète qui voulait prendre la place d'un autre poète fit remarquer que plus les vers sont courts, plus il y a de rimes. Or, la rime, tout ce qu'on voudra, c'est quand même ça, le vrai, le suprême chic. Quand c'est trop long, on risque de ne plus se rappeler avec quoi ça rime. Et alors, c'est le, passez-moi l'expression, c'est le bide. Voilà le seigneur bien empêché. Ou de longs vers et moins de rimes, ou beaucoup de rimes et des vers courts. C'est compliqué pour la tête. Heureusement, un troisième poète lui suggéra d'adopter un moyen terme, le vers de 12 pieds, si majestueux, si flatteur pour le teint, qui se danse sur un air de Java vache. Le seigneur fut bien content, Il fit pendre les deux autres nickedouilles et se mit en ménage avec le troisième poète. Maintenant, si vous me demandez pourquoi les vers inventés par lui se nomment Alexandrin, alors là... La prochaine fois, je vous conterai la naissance de l'imparfait du subjonctif. Et pour ce qui est de l'alexandrin, mon avis personnel est que la longueur de l'alexandrin correspond à la capacité pulmonaire du Pékin moyen, ce qui permet à tout un chacun, peut-être pas, de créer des alexandrins, mais au moins de les lire, comme nous l'allons voir tout à l'heure.
On s'est rencontrés par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes sans se connaître. On s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient sept fois par semaine, et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine, tu vois. Je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Maintenant, tu vas partir, tous les deux. Nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le fourneau, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Que je m'en fiche. Que je m'en fiche.
Après l'invention de la poésie, tout le monde s'était mis à vouloir parler en vers. C'est tellement beau la rime, le rythme, les mots distingués, tout ça. Oui, seulement c'est pas tout de vouloir. Ils n'y arrivaient pas, vous pensez bien. Beaucoup trop difficile. Il faut trouver des rimes. Ça, c'est le plus dur. Tu prends ton petit panier à rimes et tu pars. Tu cherches des rimes, plein de rimes. Après la pluie, il en sort des tas, mais il faut connaître les bons coins. Et après, tu vides ton panier sur la table et tu tries les rimes. Tu les mets deux par deux, celles qui vont bien ensemble. C'est joli, t'es content. Celles qui collent à peu près, pas trop bien. Mais merde, elles vont pas te rester sur les bras. Tu les mets de côté, tu les placeras entre les bonnes, à la sournoise. Une bonne, trois pas bonnes, et ça fait la rue Michel. Et après, tu les mets au bout des lignes. Les rimes, ça fait déjà plus propre. Ça commence à prendre tournure. Et après, tu mets les pieds. Là, ça devient des mathématiques. Tu ferais mieux de te faire aider par ton beau-frère, l'ingénieur des ponts et chaussées. Et après, tu mets les mots. Tu racontes l'histoire que tu as dans l'idée de raconter en te faufilant dans tout ça. C'est pas de la tarte, en tortillant du cul, bien en rythme, et en mettant tes pieds à toi sur les pieds du machin. Oh là là, si tu mets le pied à côté, tu te casses la gueule. Et au bout de chaque ligne, paf, la rime, recta. Tu vas à la ligne, tu mets une majuscule, surtout n'oublie pas la majuscule. Et si de temps en temps les mots qui riment viennent juste bien dans l'histoire, alors là c'est formidable. Mais faut pas trop demander. Attends, attends, c'est pas tout. Il faut maintenant ôter tous les mots pas nobles, tout noirs, pleins de pattes, et les remplacer par des mots nobles. Et même des fois, c'était une rime extraordinaire, le mot pas noble. Eh ben tant pis, tu dois le foutre en l'air. Quel déchirement! Et après, il faut mettre un titre, tout là-haut, bien au milieu. Et voilà, ton poème est fait. Tu peux le déclamer. Vous voyez, c'est pas à la portée de tout le monde, la poésie, surtout pour l'usage courant. Alors bon, les gens ordinaires avaient fini par se résigner. Ils causaient comme on cause, tout plat, tout gris. Et seuls les poètes parlaient en poésie, tout le temps. Oui, par exemple, chez la Crémière. Dont les yeux tout à la fois m'enchantent et me désespèrent. belle Tircis, ô vous dont les yeux d'améthyste subjuguent sous leur loi, échalants et commis, vos blancs chemins qui font paraître le lait gris, armés d'un acier prompt, manié en artiste. En pleine pâte tranche, et cela n'est pas triste, ces beaux fruits faits à point, tout droit sortis du pis, camembert, livaro, brie gruyère ou brebis. Arrêtons-nous ici, car longue en est la liste. Et moi, belle Tircis, par vos appâts charmés, confondus par ce blanc, par cette pureté, chaque matin je viens contempler la cruelle. En voix. Prince, si le poète en son trouble commande, au lieu d'un quart de brie, un rond de mortadelle, n'en concevez dédain, il aime, il pleure, il bande. Vous vous rendez compte? À vous dégoûter d'essayer. Alors, dégoûté d'essayer, le pauvre con ordinaire disait « Un camembert, s'il vous plaît, bien fait. » Misère. Vous pensez si la crémière, ça la flattait dans sa féminité et son goût des belles choses qui élèvent l'âme. Et qui sait qu'on avait un petit peu plus que son compte en profitant que le crémier regardait de l'autre côté? C'est le poète, pardi. Encore là, c'était pour acheter un bout de fromage. Il ne s'était pas donné à fond. Mais je voudrais que vous l'eussiez entendu. Quand c'était pour la chose de tirer un coup. C'est bien simple, c'est là seulement que la poésie avait vraiment le droit de s'appeler de la poésie. Les poètes ne se prenaient pas pour de la crotte de cochon d'Inde. Ils embarquaient toutes les bonnes femmes, même celles des beaux gosses, celles des costauds, celles des riches, même celles des beaux gosses costauds et riches. Ça alors. Et vous savez quoi? Si le costaud, vous savez comment sont les costauds, si le costaud lui foutait son poing dans la gueule au poète et l'arrangeait bien, bien ce merdeux, tout dans la bouche et rien dans la culotte, eh bien au début ça marchait. Je veux dire que la bonne femme commençait à retrouver la notion du droit chemin et de la convenable et juste échelle des valeurs voulues par la nature. Ça se voyait bien à ses yeux, qui regardaient le poète par terre dans la cochonnerie, avec son nez écrasé, sa triste gueule barbouillée de sang, de morve, de caca, et puis le costaud en contre-plongée sur fond de soleil couchant. Apothéose. Ses biceps, ses pectoraux, ses carrés de chocolat meunier sur le ventre, lumière rasante, relief à crier, ces trois grosses terribles bosses à la braguette et qui vacillaient, les yeux d'admiration, adoration, soumission, je suis ta chose, ta plante, ta paillasse. Ça se voyait aussi un peu de bave qui lui coulait sur le côté de la bouche et aussi parce qu'elle se tortillait et serrait les genoux comme si elle avait une grosse envie de faire pipi. Ça, c'était de la bonne petite bonne femme, saine et propre, ça oui. Mais voilà que l'autre raclure, le poète, comme vous dites, se mettait à pleurnicher, comme ça. Stance. À une ingrate pour qui je meurs, et qui n'en aurait cure si je ne criais très fort. Belle. C'est pour vous que je meurs, pour vous l'ingrate et la perfide, je vais m'en aller tout à l'heure, où vont les amants intrépides, mais malheureux. Lasse, que m'est-il donc arrivé? Le ciel chute-t-il dessus ma tête? Non, c'est l'amour qui m'a blessée, car l'amour est un dieu fort bête et capricieux. Lors donc, adieu, Arsinoé, je m'en vais au lointain rivage où les amants désespérés de l'aimer n'ont plus que mirage. Lors donc, adieu. Et paf! sous les yeux de la bonne femme, de nouveau changée, mais du mauvais côté. Cette fois, la voilà qui pleure et qui s'agenouille dans la fange et qui prend la tête toute cassée, toute sale du poète sur sa douce, large, élastique poitrine et qui lui essuie la figure avec son petit mouchoir de dentelle avec ses initiales dans le coin et qui le berce et le cajole et qui lui dit « Mon petit, mon ange, mon Jésus, mon trésor, mon lapin, mon pauvre chéri tout blessé, comme ça doit te faire mal, cher mignon !» Et qui lui prend sa queue et se la met dans la bouche. « Et bon, quoi, nous voilà repartis à zéro. » J'aurais dû lui ouvrir la tête tout à fait à ce godelureau et retirer tout ce qu'il y a dedans et jeter tout ça sur le fumier très loin et bien racler là-dedans, bien pour être sûr qu'il ne pourra plus s'en resservir. Oui, mais je vais vous dire, je suis trop bon, voilà ce que je suis. Et total. Et il s'en allait en donnant des coups de pied dans les gros cailloux, pas trop gros quand même, et on voyait bien qu'il n'était pas content. C'est pas dégueulasse et hors nature, des choses pareilles? Enfin bon, c'est l'évolution, quoi. Les costauds avaient eu leur tour, maintenant la roue avait tourné. Si les costauds, au lieu d'être tout flattés, tout pharaons, avaient tordu le cou à tous les poètes, quand il était temps, on n'en serait pas là. Et si tous les dinosaures avaient tué à temps toutes les fourmis n'auraient pas ensuite dévoré les dinosaures et nous n'en serions pas là. Nous ne serions pas des hommes, mais des dinosaures. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec tes dinosaures? Je te cause poésie et toi, craque, dinosaure.
T'aurais voulu être un arrêté.
Mais un jour, un non-poète, c'est-à-dire un pauvre con ordinaire, mais pourquoi le vexer quand on n'est pas strictement obligé? Un donc non-poète dit aux autres non-poètes que peut-être la non-poésie n'était pas seulement un non-quelque chose. La non-poésie, c'est pas seulement un non-quelque chose, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui existe autant et aussi bien que la poésie, et la preuve, c'est que ça a un nom. Ça s'appelle la prose. La quoi ? La prose.
C'est pas un nom, ça. C'est rien du tout. Jamais entendu causer.
Ils furent bien contents d'apprendre qu'il faisait de la prose sans le savoir, et que la prose était un genre littéraire. Ils se mirent à marcher fièrement dans les rues comme les poètes, fumèrent des choses mauvaises pour la santé comme les poètes, et firent l'amour dans les chichis et les complications comme les poètes. Ils continuaient à employer des mots bas et triviaux, mais ils le faisaient exprès, et même avec beaucoup d'arrogance. Et ils disaient que c'était très beau, une autre forme de beau. Mais très. Et seuls, les poètes essayèrent de dire le contraire en se bouchant le nez. Mais les pas poètes, étant, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus nombreux, qui sait qui eut le droit de la fermer ? Les poètes, et leur nez bouché. Eh oui. Et les bonnes femmes ? Qu'est-ce qu'ils leur disaient aux bonnes femmes pour les pof cueillir ? Il leur disait que la prose, c'est aussi beau que la poésie, mais avec un gros machin dans le pantalon. Et les bonnes connes les croyaient, et étaient bien déçues. Enfin bon, c'est leurs oignons. D'ailleurs, vous savez comment sont les bonnes femmes, crâneuses et pètes en l'air. Déçues, pas déçues, tu voyais rien. Elles faisaient celles qui en ont plein le bazar, comblées, repues, heureuses. N'insistez pas sans façon, un de plus je ne pourrais pas. Et les poètes avaient beau leur dire. 4. À une belle qui n'a point le goût, aussi bien tournée que le mollet. La poésie, c'est la peinture à l'huile. La prose, ça, c'est la peinture à l'eau. La poésie, c'est bien plus difficile, mais c'est tellement, tellement, tellement plus beau. Elle n'en avait cure. Si bien que les poètes, découragés, commencèrent à se laisser aller. Peu à peu, ils laissèrent des mots triviaux et bas s'immiscer dans leurs ouvrages. Tout ce qu'on voudra, des poèmes où l'on parle de chou-fleur, de foie gras et de fibromes, ce n'est plus tout à fait des poèmes. Moi, je trouve.
Tu vois, rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés. Les cons n'arrêtent pas de voler, les autres de les regarder. Si l'autre jour on a bien ri, il paraît que le déserteur est un des grands succès de l'heure quand c'est chanté par Anthony. Pauvre Boris. Voilà 15 ans qu'en Indochine, la France se déshonorait. Et l'on te traitait de vermine, de dire que tu n'irais jamais. Si tu les vois sur leur guitare ajuster tes petits couplets avec 15 années de retard, ce que tu dois en rigoler. Pauvre Boris. Ils vont chercher en Amérique la mode qui fait des dollars. Un jour, ils chantent des cantiques et l'autre, des refrains à boire. Et quand ça marche avec Dylan, chacun a son petit Vietnam, chacun son nègre dont les os lui déchire le cœur et la peau. Pauvre Boris. On va quitter ces pauvres mecs pour faire une java d'enfer. j'ai la cervelle d'un évêque avec le foie d'un militaire. Faire sauter à la dynamite la bourse avec le Panthéon pour voir si ça tuera les mythes qui nous dévore tout du long. Pauvre Boris, tu vois, rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés.
Se mirent à tricher avec les pieds. Et puis, ils se permirent d'enjamber d'un verre dans l'autre. Et hop ! Vous voyez, c'était mal parti. Un jour, c'était fatal, ils décidèrent de balancer la rime. Suprême sacrilège ! Le point de non-retour était atteint. Après cela, tout naturellement, ils se débarrassèrent des mots, puis des syllabes, puis des sons, puis de tout. Il ne restait que le titre et la signature. Mais à ça, va savoir pourquoi, ils se cramponnèrent. La poésie était devenue un métier chouette, chouette comme tout, pas fatigant. Pendant ce temps-là, les prosateurs, eux, s'étaient tellement multipliés qu'il y avait une concurrence terrible. Devaient se crever au boulot pour arracher leur maigre beefsteak. Ils s'étaient spécialisés dans le polar, dans le cœur, dans le cul gras, dans le cul snob, dans la petite histoire, dans la SF, dans la lettre anonyme, le graffiti de Pissotière, la contravention, le discours devant les monuments aux morts, etc. Certains hommes surdoués, très rares, était capable d'écrire à la fois en vers et en prose. Par exemple, Victor Hugo. C'est pourquoi on dit que Victor Hugo est un génie, et on a bien raison de dire ça. Il écrivait en prose de la main gauche et en vers de la main droite. Il pouvait même très bien croiser les bras en écrivant. C'était toujours aussi admirable, vers et prose, bien alignés. Pas une rature, pas un pâté. Les dames poussaient des petits cris d'adoration. Napoléon III était jaloux de Victor Hugo à cause de ça. Il aurait bien voulu lui faucher son secret. Il posta des sbires. Alors Victor Hugo se sauva à Jersey, qui est une île française très belle, que les Anglais nous ont volée il y a longtemps. Mais ça n'excuse pas. D'abord, ils l'ont laissé tout près de la France, exprès. Si bien que le pipi-caca anglais des habitants anglais de Jersey tombe dans les eaux françaises et vient se poser sur les plages françaises, sur des nombrils français. Eh bon, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il lui a passé au Napoléon III en prose, en vers et en latin?
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutre la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Et bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, vous aurez sans doute reconnu le style de François Cavanna. À bientôt. Et bon courage pour cette rentrée.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.